France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nous parlons des figures de la marginalité cette semaine. Ce matin, que dit la pauvreté à la philosophie ? Oh, face à la misère, à la détresse, à la pauvreté modérée ou extrême, la philosophie ne peut pas grand-chose. Inutile de se raconter des histoires. Elle est cependant comme le badaud qui se promène dans les villes, le promeneur qui traverse des campagnes appauvries ou le voyageur qui visite d'autres contrées. Elle voit la pauvreté, elle y pense. Elle se demande aussi ce que cela fait d'être vue par cette pauvreté qui, elle aussi, a des yeux. À cela, oui, elle peut réfléchir, la philosophie, à cette relation, au jugement implicite que l'on forge alors et que l'on ne peut pas toujours contrôler, à la douceur de ces jugements ou au contraire à leur dureté, parfois bien involontaire, comme si on avait peur ou comme si une envie de comprendre trébuchait sur une incapacité à le faire et on préfère alors ne pas trop y réfléchir. Mais qu'est-ce qui s'est passé et se passe encore dans cette vie de dénuement, voire dans cette vie de mendiant ? C'est douloureux d'expliquer et d'explorer toutes ces choses, mais allons-y tout de même. Bonjour Cécile Lavergne.
Bonjour Géraldine.
Vous êtes maîtresse de conférences en philosophie sociale et politique à l'Université de Lille. Vous réfléchissez à ce qu'on appelle les injustices épistémiques liées à la pauvreté. Alors évidemment, vous nous expliquerez tout cela en profondeur. Je voudrais juste dire d'emblée, un peu sommairement, que cela signifie que dans la relation à la pauvreté, malgré parfois les meilleures intentions, il y a une tendance à supposer que le pauvre ne fait pas ce qu'il faut, qu'il ne connaît pas assez de choses, qu'il devrait d'une certaine façon être plus éduqué. Des choses de ce genre qui traînent dans nos têtes. C'est un ensemble de biais cognitifs que les personnes pauvres subissent comme une deuxième peine et que la recherche permet de mettre au jour. Et bonjour Étienne Elmer.
Bonjour Géraldine Mühlmann.
Vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Porto Rico et aussi rattaché à l'Université française de Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous êtes un des meilleurs spécialistes français de Diogène de Sinope, ce philosophe grec qui a vécu de 413 à 323 avant notre ère et dont la pensée a fondé l'école dite cynique. Diogène avait fait de la pauvreté un état nécessaire à la sagesse philosophique, vous nous expliquerez. Et ces dernières années, Étienne Elmer, vous avez aussi publié deux volumes, l'un chez Verdier et l'autre au Classique Garnier, qui révèlent un intérêt plus spécifique pour l'état de mendiant en Grèce antique et aujourd'hui.
Alors, comme ça, t'es sans domicile.
Provisoirement.
Oh, mais il y a du provisoire qui lui, hein.
Ah, j'en suis pas à tendre la main, quand même.
Oui, mais c'est pas n'importe qui peut le faire, pas vrai, Toubib ?
Je confirme. L'important, c'est pas la main, c'est l'œil. Si tu tends la main, les gens passent. Fini. Faut capter l'œil. Tout est dans l'œil. Dès que t'en captes une paire, faut plus la lâcher. Crayon.
Tout vive.
Lève-toi et boite. Regarde le travail.
Vous n'auriez pas dit franc, monsieur.
C'est ridicule.
Rigolez.
T'as qu'à bosser, feignant.
Bien, monsieur Berthier, il a raison.
Il aimerait bien travailler, mais sa jambe a été happée par un treuil sur un chantier.
Menteur.
Il a trois enfants handicapés.
Et moi, j'ai rien à donner. J'ai plus rien. J'ai plus de travail, plus de famille. Et ma voiture ?
Oui.
À la fourrière.
Eh ben voilà.
Vous venez d'entendre un extrait du film Une époque formidable, réalisé par Gérard Jugnot en 1991. Il est dans le film, c'est même lui qui vient de tout perdre et rejoint des copains dans le dénuement extrême et qui lui apprennent à mendier. Vous avez évidemment reconnu la voix, je pense, de Richard Bohringer. Il y a aussi Tiki Olgado. Est-ce que vous pensez, Étienne Elmer, parce que c'est un des enjeux dans ce... Il y en a d'autres, hein, mais il y a un des enjeux dans cet extrait, que mendier, ça prend.
C'est une très très profonde question parce qu'effectivement personne, j'imagine, ne se met à mendier de plein gré ou de bonne volonté, et qu'il faut apprendre effectivement déjà une forme de renoncement et aussi apprendre, j'imagine, ce que c'est que le regard des autres ou l'indifférence des autres aussi, c'est-à-dire l'absence de regard sur la personne qui mendie. Donc je pense que oui, il y a Alors, est-ce que ça peut aller évidemment aussi jusqu'à ces attitudes physiques et corporelles qui sont mentionnées dans l'extrait, mais je pense que c'est d'abord là, d'après ce que on peut reconstituer à partir de connaissances philosophiques ou littéraires, c'est d'abord peut-être l'apprentissage d'une nouvelle subjectivité, quoi.
Oui, c'est ça, voilà. Vous le dites, c'est un enjeu dans vos travaux.
Voilà,
c'est que dans la pauvreté, beaucoup de choses doivent se reconfigurer, un rapport à la dignité qui bouge, qui ne s'abolit pas du tout, contrairement à ce qu'on croit parfois. Et ce changement-là, c'est pas un objet facile pour la philosophie. Vous y êtes allé, vous?
C'est pas un objet facile. Alors d'abord parce que ce n'est pas un objet statistiquement très fréquent dans les livres de philosophie. Et puis c'est pas un objet facile. Et cette absence de fréquence dans les ouvrages de philosophie sur ces questions de grande pauvreté ou de mendicité tient aussi au fait que probablement il y a un déséquilibre ou une asymétrie dans la relation que vous avez évoquée au début de votre présentation. C'est-à-dire que la personne démunie et plus encore la personne qui vit dans la rue et qui mendie est perçue depuis une position qui l'aperçoit comme une personne étant en manque et n'étant pas elle-même en mesure de s'exprimer, de définir ses manques et d'avoir part de manière dynamique et active à la relation. Donc la relation est asymétrique et donc ce que les travaux philosophiques que l'on peut trouver sur la question et puis de sociologie ou de psychologie sociale montrent, c'est qu'au fond, il faut inverser cette perspective pour comprendre que depuis le dénuement, depuis la mendicité, il y a une autre subjectivité, voilà, pleine, riche. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas confrontée à des difficultés, hein, ça n'abolit pas évidemment les difficultés réelles, mais elle est là et c'est elle dont il faut se saisir.
Vous traitez aussi de ces questions avec beaucoup de précision et de tact, je trouve, Cécile Lavergne. Mais je voudrais, on va parler de cette subjectivité qui se reconfigure dans la pauvreté, mais dans l'extrait que nous avons entendu de ce film de Gérard Jugnot, Une époque formidable, il y a un autre enjeu qui transparaît. Ils font la comédie, ces copains-là, pour lui apprendre comment il faudra mendier. Et ils font tout cela auprès de lui, qui est donc mis dans le rôle de celui qui reçoit la mendicité, de celui qui est regardé, de celui à qui on demande. Et on note que son premier réflexe, c'est un agacement, une colère. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça permet de mettre au jour le fait que si mendier est très difficile, reconfigure plein de choses, et peut-être s'apprend dans le dénuement extrême, recevoir des demandes de cet ordre, de la mendicité, c'est aussi plusieurs rôles qui se travaillent, qui sont parfois involontaires, des agacements qu'on ne voudrait pas avoir, des choses dont là aussi la philosophie a beaucoup de mal à parler, n'est-ce pas, Cécile Lavergne?
Oui, alors ce que je trouve très intéressant dans cet extrait qui est traité avec comique, c'est... comme le disait Étienne Elmer, hein, le fait que la posture du mendiant demande un certain nombre de compétences corporelles, l'apprentissage d'une forme de ruse aussi, qui doit en fait négocier avec un certain nombre de stéréotypes qui portent sur la personne pauvre, le mendiant, le stéréotype du fainéant, le stéréotype du simulateur qui ment sur ses enfants, qui ment sur son handicap. Et donc en fait, le mendiant est forcé de déployer hein, des ressources d'ingéniosité, de ruse, pour incarner un rôle qui est celui du bon pauvre, en fait, qui va pouvoir recevoir, d'une certaine façon, la compassion de celui ou celle à qui il demande l'aumône. Et de ce point de vue-là, ça montre, en fait... si je reprends en fait le parti pris hein, qui est celui d'Étienne Elmer et qui est aussi le mien de penser en fait la pauvreté dans sa positivité, dans ses dimensions cachées positives, eh bien on voit là que le mendiant c'est aussi en fait des attitudes de ruse, d'intelligence qui doit aussi faire face à beaucoup d'indifférence, une violence du regard, une suspicion permanente avec laquelle, alors ici, c'est traité avec humour évidemment, mais on se doute bien que ce poids du regard social sur la pauvreté, sur la mendicité, il est extrêmement écrasant, il est extrêmement douloureux et il peut conduire à voilà, la honte, l'humiliation, la colère et à des subjectivités aussi écrasées par la misère.
Et la personne qui reçoit la demande d'aide, comment vous pensez qu'elle apprend, plus exactement, comment est-ce que vous jugez les différents rôles possibles qui sont joués d'ailleurs par Junio dans l'extrait qu'on vient d'entendre? Comment philosophiquement vous abordez la question du regard sur la pauvreté?
Alors philosophiquement, le regard sur la pauvreté, comme l'a rappelé aussi mon collègue, il a été beaucoup placé sous le signe du négativité, du manque, c'est-à-dire la pauvreté, c'est le diminuement. Ça peut être aussi l'absence de logos, si j'en crois la très belle lecture d'Étienne Helmer sur Aristote. Ça peut être l'absence d'intelligence, l'absence d'éducation. Et puis, le regard sur la pauvreté, ça peut être aussi philosophiquement, au contraire, faire le pari que depuis les marges, depuis cette marge pauvre, la philosophie a quelque chose à apprendre, à découvrir. Et comme le disait en fait une personne en situation de pauvreté avec qui j'ai travaillé dans le cadre d'une recherche participative, la philosophie, qui s'appelle Saskia Jacob, la philosophie doit trouver dans le carmon, dans la pauvreté, un poste d'observation privilégié, un point de vue unique de connaissance. Et je pense qu'en fait, ce point de vue, depuis les marges, depuis la marge pauvre que la philosophie peut déployer, c'est aussi un regard que, dans nos interactions quotidiennes avec les personnes en situation de pauvreté, on peut aussi apprendre à développer, dès lors qu'on accepte de se défaire d'un certain nombre de préjugés, de stéréotypes qui pèsent sur les personnes pauvres, sur les mendiants, mais pas uniquement sur les mendiants, et qui jouent en fait comme des écrans, comme des formes en fait de mise à distance et d'ignorance collective qui nous empêchent véritablement de saisir le sens de ces vies pauvres, le sens de ces formes de vie pauvres et aussi leur positivité et leur puissance propre.
Étienne Helmer, vous connaissez vraiment très très bien Diogène de Sinope, fondateur de l'école dite cynique. Je suis désolée, il faut qu'on revienne à des choses très premières. Il faut que vous nous réexpliquiez ce que c'est que la philosophie cynique, d'autant que ce mot a des connotations aujourd'hui qui n'étaient pas du tout celles de l'époque. Ça vient du mot chien, je vais vous laisser nous expliquer. Mais derrière ma demande d'explication, il y a aussi un étonnement. J'ai l'impression que, mais peut-être que je simplifie, que pour Diogène, la pauvreté, loin d'être un lieu où on demande des choses à d'autres, c'est précisément un lieu d'autarcie. Et que c'est une bonne chose pour un philosophe d'être dans cette situation d'autarcie. Alors peut-être que je simplifie, mais je vous laisse la parole pour nous expliquer tout cela.
Oui, alors, je pense que ce que vient de dire, c'est pour faire le lien avec ce que vient de dire Cécile Lavergne, je crois effectivement que ces stéréotypes qui rendent difficile la perception et l'apprentissage, et j'en viens à Diogène juste après parce que c'est dans la continuité, qui rendent difficile la perception de la pauvreté ou qui nous font résister un peu à l'appréhender, quoi. Cette difficulté ne tient pas simplement à des préjugés moraux, enfin ça peut jouer, mais je crois qu'il y a des racines très profondes qui sont des racines anthropologiques en fait. Et c'est là que j'en viens à Diogène, puisque ces racines, on peut les trouver, enfin c'est ce que je propose, je dis pas que ce sont les seules, mais on peut les trouver peut-être dès l'origine de la philosophie en Grèce. Et donc Diogène est quelqu'un, Diogène est un philosophe du 4e siècle, avant Jésus-Christ, vous l'avez rappelé, qui va adopter un mode de vie allant singulièrement à l'encontre des normes admises de son époque, et notamment rejeter ou refuser toute forme d'acquisition, de richesse, etc. Et alors parfois, alors c'est souvent, ça prend souvent des formes extrêmes. Il va vivre dans une jarre sur la place publique.
Une jarre, on dit toujours un tonneau. pareil.
Oui. Oh, techniquement, c'est différent, mais ça change pas grand chose. Ça change pas grand chose.
Une grande jarre quand même.
Une grande jarre.
Dedans, hein. Oui.
Exactement.
Il écrit quand même. Ça, c'est une question. On a perdu plein de choses.
Il a écrit. Oui.
Mais dans sa jarre, là, il écrit.
Il a écrit. Alors, est-ce que c'était dans sa jarre ou sur la place publique? Ça, je ne saurais dire. Mais en tout cas, oui, là, c'est un philosophe qui a écrit, dont on a malheureusement pas grand chose. Pas grand chose n'est resté. Et donc, Diogène va rejeter un certain nombre de grandes idées de ses collègues et prédécesseurs comme Platon, etc. Mais il y a quand même un point commun avec toute une tendance de la philosophie ancienne, c'est de considérer que la pauvreté n'est pas le manque qui est le dénuement. C'est que la pauvreté est plutôt dans le fait de n'être jamais satisfait, de n'avoir jamais assez. Au fond, si j'ai des besoins et que ce besoin à peine comblé redevient un grand vide à assouvir, eh bien finalement, je suis dans la situation de pauvreté que j'imagine être celle des gens pauvres quand je suis précisément dans cette situation. Et donc, la pauvreté telle que va la pensée Diogène, c'est ça, il renverse le stigmate d'une certaine manière. Le pauvre, en fait, c'est le riche qui ne cesse de désirer avoir toujours plus.
Oui.
Et lui-même, ayant ses besoins couverts puisqu'ils sont très limités, eh bien, s'estime toujours satisfait, toujours comblé.
Donc, alors, de ce point de vue, il n'est pas pauvre. Il considère qu'il n'est précisément pas pauvre.
Exactement. Il considère qu'il n'est pas pauvre. C'est une idée que l'on retrouvera chez Socrate. Cette idée que Socrate n'est pas pauvre et qu'il est même plus riche que de jeunes aristocrates de son époque qui possèdent pourtant des fortunes considérables.
Mais dans l'autre sens, donc c'est Socrate qui a influencé Diogène,
alors,
non ?
Alors, il est possible que Socrate ait influencé Diogène de ce point de vue-là, mais Diogène va radicaliser cette affaire-là. Et du coup, pour la question de l'autarcie, je pense qu'il y a de ce fait-là une dimension autarcique dans la démarche de Diogène, mais attention, par autarcique, je crois qu'il faut bien préciser qu'il ne s'agit pas d'une démarche de repli. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rompre les ponts avec la société et éventuellement d'aller vivre en ermite solitaire dans une forêt ou dans la montagne. Les cyniques sont des philosophes politiques et sociaux.
Alors ça, c'est vrai que ça, j'ai jamais bien compris. Et d'autant plus que là, il faut expliquer ce que ça veut dire cynique.
J'ai deux choses à dire.
Oui, mais il y a beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'on croit comprendre, on croit savoir depuis toujours ce que c'est Diogène, ça. Mais dans le détail, c'est assez complexe parce que on va le voir, il interpelle plein de monde alors qu'on vient de dire qu'il est dans l'autarcie. Il dit qu'il n'a besoin de personne, mais il est dans la place publique. Donc il y a beaucoup de choses très difficiles.
Voilà. Alors je commence par la fin, c'est-à-dire pourquoi je dis que c'est une philosophie sociale, et je pense que la mendicité de ce point de vue va être une relation fondamentale, puisque les cyniques vont vivre en grande partie de mendicité. Et peut-être j'imagine qu'on va en reparler par la suite, puisque il va falloir penser cette mendicité comme une relation qui va démystifier les échanges économiques et surtout les échanges économiques lorsqu'ils sont fondés sur la prédation, la conquête et l'accumulation. Donc ça va avoir un rôle radical. Alors, les cyniques sont... Alors, cynique veut dire qui fait le chien, ou qui imite le chien, ou qui est comme le chien. Donc, on dit Diogène le chien, ou Diogène le cynique, c'est à peu près synonyme. Et cette appellation provient du fait que, à plusieurs origines. Alors, l'une des origines, c'est que les cyniques faisaient tout en pleine lumière, en plein jour, y compris ce que nous faisons plutôt dans l'intimité.
Donc, y compris leurs besoins comme des chiens, c'est ça ?
Voilà, leurs besoins, leurs relations sexuelles, le fait de manger aussi, qui en Grèce était très mal vu, on ne mange pas en public, enfin, on ne mange pas comme ça sur la place publique. Voilà, donc tout ça est fait au grand jour, et du coup... on les traite de chiens. Vous êtes des chiens, etc. Donc,
entendu,
oui. Diogène récupère, s'approprie cette appellation, cette insulte, et la renverse pour dire, moi je vais être un chien je vais vous mordre. Et je vais vous mordre en faisant de ma philosophie un instrument pour vous montrer que votre vie n'est pas conforme à ce qu'elle pourrait être et surtout qu'elle elle perpétue la violence. Les rapports de dépendance, les rapports de servitude. Donc voilà, moi, le chien a une fonction critique, en fait. C'est un symbole
critique. Critique, mais pas cynique au sens actuel du mot, c'est ça ?
Non. Cynique, aujourd'hui, veut dire qu'il ne croit plus à aucun idéal, qu'il ne croit plus à aucune valeur. Non, c'est pas du tout. Au contraire, les cyniques ont beaucoup de valeurs, valorisent beaucoup la liberté, les rapports pacifiques, le plaisir de l'existence, tout simplement, puisque c'est quand même Diogène, c'est quand même très rare pour un philosophe de d'avoir un philosophe qui prend le soleil.
Ils n'aiment pas le soleil, ils sont nés en Grèce quand
ils
même,
Grèce.
Les philosophes. Ils doivent aimer un peu le soleil, non?
Ah oui, oui. Oui, j'espère qu'ils aiment le soleil. mais Diogène nous est décrit comme prenant le soleil. Ce qui n'est pas
bronzant,
le cas. Bronze, il bronze et il ne dit rien, il n'écrit pas, il est là. Quoi. Donc il jouit de la lumière et de la chaleur du soleil. Bon, ce qui est quand même aussi une forme de plénitude et de contentement dans l'existence.
Mais alors pourquoi dites-vous, vous connaisseurs de Diogène, que la mendicité est importante? A priori, on se dit, s'il n'est pas dans la pauvreté qui, comme vous l'avez dit, est pleine de besoins à satisfaire, si pour lui, au contraire, ce n'est pas la pauvreté, il est dans une sobriété dans laquelle il éprouve de la plénitude, il n'a besoin de personne, l'autarcie est atteinte, pourquoi la mendicité? C'est contradictoire.
Non, alors, la mendicité, c'est l'activité, entre guillemets, économique, par laquelle les cyniques tendent à satisfaire leurs besoins, et notamment le fait de manger. Mais les cyniques ne travaillent pas. Très peu de témoignages indiquent qu'ils travaillent. Ils n'ont pas de fortune de personnel, ils y ont renoncé. Et la mendicité consiste en réalité à demander quoi que ce soit. C'est-à-dire, au fond, à se satisfaire de n'importe quoi, dès l'instant que ça permet de remplir son ventre, en fait. Donc, en quoi est-ce un instrument d'autarcie? Alors, on tend souvent à dire que la mendicité est contraire à l'autarcie, puisque finalement, je dépends des autres.
C'était ma question, justement.
Mais je ne pense pas que ce soit une bonne façon de voir l'autarcie. C'est-à-dire que l'autarcie, le fait que le cynique soit indifférent à ce qu'on lui donne et qu'il ait besoin de très peu, fait qu'au fond, il se satisfait d'à peu près tout. Et donc, s'il ne trouve pas, si on ne lui donne pas, il se satisfera autrement, il prendra ce qu'il trouve, etc. Donc, la fonction de la mendicité est plutôt d'inviter la personne qui donne, donc ce que vous avez évoqué avec l'extrait du film, la personne qui va donner, Diogène l'invite et l'invective souvent en lui disant « Mais tu vois, moi je n'ai besoin que de très peu, pour toi ce n'est rien. » Donc, à essayer de changer son regard.
Et à la mordre, au sens où il la gêne, où il lui dit des choses qu'elle n'a pas envie d'entendre. Donc en fait, la mendicité, c'est moins son enjeu matériel concret, qui ne compte pas beaucoup, il faut un peu quelque chose pour se nourrir, c'est tout, il se nourrit très peu, Diogène. Mais c'est la relation avec, si j'ai envie de parler comme le Socrate de Platon, qui pique comme un temps, c'est ça, hein, qui nous dérange, c'est là-dessus qu'il appuie, Diogène, c'est ça?
Oui, c'est souvent très drôle. Hein, je ne te demande pas pour ma nourriture, je ne te demande pas pour mon enterrement, je te demande simplement de quoi manger. Donc, je ne te demande pas grand-chose. Donc, il faut aussi, c'est une invitation à relativiser la mesure des besoins et à prendre conscience que je ne me défais de rien quand je donne, finalement.
Alors, on va écouter un texte. C'est la lettre 33 de Diogène à Phanomakos, qu'on retrouve dans les lettres de Cynique. Juste une question à ce propos. Donc, c'est Diogène, on sait que c'est Diogène qui a écrit en se mettant en scène, ou c'est quelqu'un qui parle de Diogène?
Pas du tout. Ce sont des lettres apocryphes, donc dont on ne connaît pas les auteurs, mais qui sont postérieures à Diogène, mais qui mettent en scène Diogène.
D'accord.
Avec tout un tas de personnages historiques ou fictionnels.
Et donc, évidemment, on a une scène avec Alexandre le Grand. Alors là, c'est la puissance et la richesse incarnée, mais ce n'est pas la scène qu'en général on cite, « Pousse-toi de mon soleil », etc. C'est plus complexe et c'est plus directement lié à notre sujet d'aujourd'hui, qui est la pauvreté.
Il n'y a pour moi aucun intérêt à discuter avec toi en ce moment.
Il n'a pour toi aucun intérêt, le roi Alexandre.
Pas la moindre. Car aucune guerre ne menace de m'arracher ce qui m'appartient, comme c'est le cas pour les Macédoniens, ou les Lacédémoniens, ou d'autres encore, ce qui les pousse à avoir besoin d'un roi.
Mais à cause de la pauvreté, cependant, j'ai pour toi de l'importance.
Quelle pauvreté?
Ta pauvreté, qui fait de toi un mendiant dépourvu de tout.
Non, ce n'est pas pauvreté que de n'avoir pas d'argent, ni un mal que de mendier. C'est plutôt de tout désirer, ce mal qui vous tient, et d'user de la force. Aussi ai-je pour allié de ma pauvreté les sources et la terre, et aussi les grottes et les vallons boisés, et grâce à elles, aucune guerre n'est dirigée contre moi, pas une seule, ni sur terre, ni sur mer. Mais tel que nous étions le jour de notre naissance, sache que c'est encore ainsi que nous vivons. Mais pour ceux qui occupent votre position, ni la terre ni la mer ne peuvent être des alliés. Au contraire, vous tenez ces choses-là pour négligeables et vous partez à l'assaut du ciel. Sans même vous fier à Homère, qui montre qu'il ne faut pas désirer ce genre de choses quand il décrit, pour engager la tempérance, le châtiment des Aloades. Tandis que j'exposais cela avec une grande fermeté, une profonde honte s'empara d'Alexandre, qui, en se tournant vers l'un de ses compagnons, déclara
« Ah, si je n'avais pas été d'abord Alexandre, j'aurais été Diogène. »
Puis, m'ayant fait lever, il voulait m'emmener avec lui, m'exhortant à faire campagne à ses côtés. Et ce n'est qu'à contre-cœur qu'il me laissa partir.
Dans cette lecture, Nicolas Berger est Diogène et Alexandre le Grand est... Sa voix a été prêtée par Cyril Marchand qui travaille à France Culture. Il y a aussi du jeu de rôle là. C'est intéressant à la fin, Étienne Elmer, quand Alexandre dit « Si je n'avais pas été Alexandre, j'aurais été Diogène ». La question des rôles, on va y revenir avec vous, Cécile Lavergne. Ça fait partie de la gêne. On pourrait être le pauvre, on pourrait être le mendiant. Le mendiant nous le rappelle. Il y a quelque chose de cet ordre. Mais je vous laisse commenter plus largement, Étienne Elmer, cette scène racontée à propos de Diogène de Sinope.
Oui, alors c'est une scène un peu typique. Hein. Diogène est souvent mis en scène avec Alexandre. Donc on a les deux pôles opposés du spectre social et politique, je dirais, qui, dans une représentation relativement classique, consiste à dire eh bien Diogène, c'est le pôle de la pauvreté face à Alexandre, qui est le pôle de la plus grande puissance politique, économique et militaire. Et ce que la lettre met en scène, eh bien c'est finalement le renversement des pôles, puisque Diogène nous montre révèle aussi à Alexandre qu'il n'est pas aussi puissant qu'il le pense. Pourquoi ? Bah parce qu'il et surtout qu'il est plein de stéréotypes sur ce que c'est qu'être riche, être pauvre et être puissant. Donc là, Diogène définit la pauvreté non pas comme le fait d'être démuni ou d'être dans le dénuement, mais comme le fait d'être insatiable. Ce qui va de pair avec cette insatiabilité va de pair avec l'idée que les rapports sociaux sont finalement des rapports de violence, puisque l'insatiabilité va inciter à conquérir, à prendre pour soi-même contre les autres. Et Diogène fait un peu bouger finalement Alexandre. Vous évoquiez tout à l'heure la question de comment la personne qui est sollicitée réagit. Eh bien là, il y a le moteur de la honte quand même qui est mentionné à la fin.
Oui.
Alexandre a honte, ce qui quand même pour ce personnage est quand même un paradoxe. Il est déstabilisé quand même. Hein. Il est déstabilisé et se rend compte que alors le j'aurais été Diogène peut vouloir dire oui j'aurais pu être Diogène dans une autre vie. Mais aussi, j'aurais peut-être aimé être Diogène. J'aurais aimé être Diogène,
oui.
mais je n'y arrive pas.
Alors que jamais Diogène ne dit « j'aurais aimé être Alexandre le Grand ».
Et voilà, exactement. Voilà.
Merci pour cette analyse. Cécile Lavergne, vous êtes philosophe, vous connaissez plein de choses. Sur la pauvreté contemporaine, vous êtes vraiment celle qui produit les travaux les plus complets, les plus récents, avec des nouveaux concepts qu'on va évoquer en France, mais c'est des concepts qui viennent de partout. Est-ce que la figure de Diogène de Sinope, 4e siècle avant Jésus-Christ, tout ce qu'on vient d'en dire là, vous intéresse ? Je veux dire, philosophiquement, est-ce qu'elle vous est utile pour aborder vos objets d'aujourd'hui ?
Alors, j'ai découvert Diogène grâce à cette émission, puisque j'ai lu l'excellent livre de mon collègue Étienne Elmer, Mardi peut-être. Et ce que je trouve très puissant dans la figure de Diogène, en tout cas dans ce texte et dans ce que j'en connais, c'est que on voit toute la puissance de transgression, en fait, de la parole qui vient de la pauvreté, dès lors qu'on se rend attentif à cette parole. C'est-à-dire que ici, on a quand même affaire à une scène qui est un peu, qui est une expérience de pensée intéressante qu'on aimerait pouvoir reproduire un peu plus souvent. C'est-à-dire qu'en fait, quel puissant aujourd'hui va prêter l'oreille, enfin prêter, aller écouter la parole du mendiant ou la parole du plus pauvre. Je pense que si on était plus attentifs et attentifs, et en particulier les personnes qui sont en position de pouvoir, au savoir et à la puissance critique qui vient de la pauvreté, probablement que on serait plus à même de pouvoir peut-être endosser cette honte qui, Étienne Elmer le souligne, a une fonction critique parce qu'elle nous permet aussi de découvrir nos propres positions de pouvoir et de privilèges. Et ça me permet en fait de rebondir avec la recherche qui est la mienne. Et je oui. précise qu'en fait, c'est une recherche qui est une recherche collective. Donc, que je défends ici un certain nombre de résultats et une philosophie sociale de la pauvreté que j'ai élaborée dans le creuset d'un travail assez formidable que j'ai mené pendant 3 ans avec un certain nombre de philosophes dont Marie Gadreau, Emmanuel Renaud, Guillaume Leblanc, David Jousset et d'autres.
Où ça, racontez-nous le terrain que
alors, vous aviez. Alors, pas seulement des philosophes, aussi également des personnes en situation de pauvreté issues du mouvement international ATD Quart Monde. Et également des personnes qui luttent contre la grande pauvreté, donc des volontaires et des alliés à TD Quart Monde. Et donc cette recherche participative qui a réuni pendant 3 ans des philosophes, des personnes en situation de pauvreté et des volontaires à TD Quart Monde a permis en fait véritablement pour la première fois, je pense, de formuler ce qu'on peut appeler une philosophie sociale de la pauvreté, où il s'agissait vraiment de penser la pauvreté depuis l'expérience de la pauvreté, depuis cette marginalité pauvre. Et à travers ce travail, qui à mon sens est vraiment un vrai travail de philosophie sociale, au sens où on a vraiment fait les preuves de faire surgir et d'écouter ces savoirs qui viennent de la pauvreté. Depuis ce travail, on a centralement, notamment, essayé de travailler à la question donc que vous mentionniez dans votre introduction des injustices épistémiques.
Oui. Alors, bien, merci. À ce propos, donc, je voudrais vraiment que vous nous disiez qui a développé ce concept. Je crois savoir, parce que vous nous avez donné beaucoup d'informations avant cette émission, que c'est une certaine Miranda Fricker. Je ne sais pas du tout qui c'est. C'est pas normal. Ça veut dire qu'on en philosophie, ça ne circule pas autant que ça devrait. J'ai l'impression que c'est une penseuse qui a publié Epistemic Injustice à Oxford University Press, donc une penseuse anglo-saxonne très importante.
Alors, tout à fait. Alors, ce que je voudrais préciser, c'est que au fond, ce qu'étudie Fricker sous le concept d'injustice épistémique, c'est pas Fricker qui... Fricker a inventé le concept, mais le phénomène en tant que tel, il a déjà été largement étudié par notamment les philosophes féministes anglo-américaines, un certain nombre de penseurs de critiques du racisme comme Dubois, comme Fanon et d'autres. Et ce concept, enfin ce phénomène des injustices épistémiques avait aussi été largement identifié par le mouvement ATD Quart Monde et en particulier son fondateur Joseph Rzezinski. Mais Fricker, l'intérêt de son ouvrage de 2007, c'est de formaliser une théorie pour la première fois, qui ensuite va donner lieu à beaucoup de discussions et à la naissance d'un champ de recherche extrêmement riche, alors qui est aujourd'hui essentiellement anglo-saxon, mais qui commence aussi à se développer dans le champ francophone. Et normalement, le bouquin de Fricker devrait paraître très prochainement, ce qui est une excellente nouvelle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'injustice épistémique? Alors, en premier lieu, il ne faut pas confondre épistémique et épistémologique. L'épistémologie, c'est une sous-discipline de la philosophie qui étudie, qui est une théorie de la connaissance. En fait, épistémique, c'est beaucoup plus simple. Ça, c'est un concept un peu compliqué pour dire c'est une injustice spécifiquement liée au savoir. Donc, au fond, donc
ils ne savent pas organiser leur vie, ils comprennent pas le système. Ils devraient comprendre que c'est cette manière de penser qui constitue l'injustice épistémique.
Alors, L'injustice épistémique, déjà, il faut préciser que tous et toutes, nous sommes susceptibles de la vivre dans nos expériences quotidiennes. Alors évidemment, quand on n'est pas en situation de pauvreté, c'est moins fréquent. Quand on n'est pas cru, quand on est silencier, quand il nous manque aussi des ressources herméneutiques pour éclairer en fait notre propre expérience. Donc au fond, l'injustice épistémique, c'est quand c'est une injustice qui renvoie au fait que notre agentivité épistémique est empêché de manière arbitraire. Donc notre agentivité épistémique, c'est notre capacité à être des porteurs, des diffuseurs et des créateurs de connaissances. Alors, plutôt de savoir, parce qu'en fait ici, il ne s'agit pas de se concentrer sur la connaissance universitaire ou académique ou scientifique, mais le savoir dans son sens très, très large, dans son sens social. Hein. Tous et toutes, nous sommes susceptibles de diffuser, de créer du savoir. Et donc, ce que nous avons découvert dans cette recherche participative, qui a fait l'objet de cette publication en 2023 pour une nouvelle philosophie sociale, transformer la société à partir des plus pauvres au bord de l'eau, c'est que les personnes en situation de pauvreté subissent de manière centrale, répétée, quotidienne, des injustices liées au savoir, des injustices épistémiques. Et cette centralité des injustices épistémiques, donc dans leur rapport aux institutions de l'aide sociale en particulier, où elles sont souvent considérées comme étant des mauvais parents et donc susceptibles de produire des carences éducatives, dans leur rapport aussi aux juges, dans leur rapport aussi à l'institution médicale, etc., etc., dans leur rapport à l'école, évidemment aussi. Eh bien, en fait, ces injustices épistémiques ont tendance à renforcer, à reproduire le poids de la misère et de la pauvreté, à rendre le combat et la sortie de la pauvreté encore plus difficile, puisque, en fait, elles ont tendance à créer une ignorance collective sur ce que c'est que la pauvreté, sur ce dont on a parlé au début de l'émission, c'est-à-dire quelle est sa positivité, quelle est en fait au fond les ressources d'intelligence et aussi d'ingéniosité qu'il faut avoir pour survivre et exister dans la misère et dans la pauvreté. Et donc, en fait, elles nous coupent, elles font écran, ces injustices épistémiques, entre celles et ceux qui ne la vivent pas et celles et ceux qui la vivent, et nous empêchent, au fond, de véritablement trouver les bonnes solutions politiques pour y remédier.
Martine Lecor, qui a vécu dans la rue, qui a dans un très grand dénouement et qui a fait paraître au bord de l'eau, l'éditeur, en 2023, un récit intitulé « Les miens sont ma force », écrit ceci. « Aux yeux de la plupart des gens, les pauvres sont des faibles qui ont échoué. On ne voit pas la dimension positive des plus pauvres, on ne parle pas de l'énergie que nous déployons pour nous accrocher à la vie face à des précarités constantes. » Elle développe beaucoup et puis elle dit « Non, je l'affirme, les plus pauvres, contrairement à toutes les idées reçues, sont des résistants que l'on ignore. » Et si je comprends bien, vous ajoutez, Cécile Lavergne, ce sont des gens qui connaissent plein de choses que nous ne connaissons pas.
Tout à fait. Et donc, quand Martine Lecor, je pense, dit... affirme, hein, ce texte est magnifique, que les personnes en situation de pauvreté sont des résistants qu'on ignore, des résistants d'une certaine clandestinité. Eh bien, en fait, il faut comprendre cette résistance aussi comme une résistance épistémique, c'est-à-dire une forme de résistance qui se fait aussi sur le terrain et doit se faire aussi sur le terrain de la connaissance et du savoir. Alors, pour affirmer que les personnes en situation de pauvreté sont aussi pleinement, comme tout un chacun, dépositaires d'une agentivité épistémique, mais qu'il y a aussi tout un tas de savoirs qui sont produits depuis l'expérience de la pauvreté et qui ont une véritable valeur sociale, en fait, et qui pourraient informer, en fait, davantage, pas seulement la lutte contre la pauvreté, mais aussi d'autres luttes sociales et politiques, comme, par exemple, l'écologie, certainement, puisque les personnes en situation de pauvreté sont contraintes et contraintes de vivre dans une très grande sobriété et d'inventer des ressorts et des ressources d'ingéniosité énormes pour faire face face au dénuement et aux contraintes qu'imposent des conditions matérielles d'existence difficiles. Et donc, ce sont, je pense, ces savoirs cachés, hein, de la pauvreté qui constituent le socle de la résistance épistémique des plus pauvres qu'on peut raccrocher à cette parole de Martine Lecor.
Alors, à propos de l'énergie que mettent des personnes qui sont en train de dévisser, à ne pas dévisser, l'inventivité dont vous parliez, le savoir, au fond, je vous propose d'écouter un extrait fameux des Misérables de Victor Hugo de 1862. Voici la description de Fantine en pleine descente aux enfers.
Fantine s'offrit comme servante dans le pays. Elle alla d'une maison à l'autre. Personne ne voulut d'elle. Elle n'avait pu quitter la ville. Le marchand fripier auquel elle devait ses meubles, quels meubles, lui avait dit « Si vous vous en allez, je vous fais arrêter comme voleuse ». Le propriétaire auquel elle devait son loyer lui avait dit « Vous êtes jeune et jolie, vous pouvez payer ». Elle partagea les 50 francs entre le propriétaire et le fripier, rendit au marchand les trois quarts de son mobilier, ne garda que le nécessaire et se trouva sans travail, sans état, n'ayant plus que son lit et devant encore 100 francs. Elle se mit à coudre de grosses chemises pour les soldats de la garnison et gagnait 12 sous par jour. Sa fille lui en coûtait 10. C'est en ce moment qu'elle commença à mal payer les Thénardier. Cependant, une vieille femme qui lui allumait sa chandelle quand elle rentrait le soir lui enseigna l'art de vivre dans la misère. Derrière vivre de peu, il y a vivre de rien. Ce sont deux chambres. La première est obscure, la seconde est noire. Fantine apprit comment on se passe tout à fait de feu en hiver, comment on renonce à un oiseau qui vous mange un liard de millet tous les deux jours, comment on fait un jupon de sa couverture et de sa couverture un jupon. Comment on ménage sa chandelle en prenant son repas à la lumière de la fenêtre d'en face. On ne sait pas tout ce que certains êtres faibles, qui ont vieilli dans le dénuement et l'honnêteté, savent tirer d'un sou. Cela finit par être un talent. Fantine acquit ce sublime talent et reprit un peu de courage.
France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann.
Et nous parlons de la pauvreté ce matin dans une série consacrée aux marges, aux figures de la marginalité. La pauvreté est un sujet très difficile pour la philosophie. En même temps, nous avons un grand philosophe grec, Diogène de Sinope, qui considérait que c'était un état dont il refusait le mot, mais un état très important pour être philosophe, à condition de comprendre qu'on a besoin de très peu de choses. Étienne Elmer, l'art de vivre dans la misère, c'est un mot employé par Victor Hugo dans la lecture qu'on vient d'entendre à propos de Fantine, mais c'est pas du tout comme pour Diogène, ce n'est pas joyeux. Fantine apprend cet art de vivre dans la misère, mais c'est une souffrance atroce quand même, il y a toujours ça chez Hugo, pas chez Diogène.
Non, ce texte de Victor Hugo est effectivement très sombre, même si... La fin laisse un petit peu de lumière, mais enfin, c'est effectivement très sombre. Il y a tout de même un point commun avec Diogène, c'est effectivement l'économie de moyens. Et une économie très rationnelle, en fait, qui engage, ce que disait Cécile Lavergne, un certain nombre de dispositions à rationaliser l'ensemble des moyens qu'on a pour en maximiser, en quelque sorte, l'usage et le bénéfice. Et ça, c'est un point commun avec Diogène, et notamment la ligne qui dit « Elle a pris comment on fait un jupon de sa couverture et de sa couverture un jupon ». Diogène, lui, fait de sa tunique une couverture. Donc il y a un point commun. Mais effectivement, la différence avec Diogène est patente. Diogène, c'est la santé, d'une certaine manière. Et ça, c'est un point quand même très important, parce que pour que le dénuement devienne une force positive, une forme de vie positive, et éventuellement un modèle, il faut que la santé soit au rendez-vous. Et donc Diogène a une vie ascétique, ce qui ne l'empêche pas d'être plaisante à ses yeux. Mais en tout cas, Diogène n'est jamais malade, Diogène ni en hiver, ni... Donc c'est une figure. Hein. Donc là, on a un problème, si vous voulez.
Et le personnage historique, il ne tombait jamais malade.
Ah ben je ne saurais vous dire. On n'a pas de.
Alors que Fantine, c'est ça.
Alors que Fantine, voilà.
C'est la maladie, c'est voilà. La pneumonie, c'est terrible. Voilà, c'est... Alors il y a autre chose. Il y a du savoir chez Fantine et je vais vous interroger là-dessus. Aussi. Oui, mais allez-y maintenant.
Moi, ce que je trouve très beau dans ce texte, c'est la solidarité entre ces deux femmes et le fait que dans la misère, c'est cette vieille femme qui apprend à Fantine cet art de vivre dans la misère. Et au fond, cet apprentissage lui permet à la fin de retrouver un peu de courage. Et donc, souvent, on a aussi ce préjugé que les personnes qui sont dans la misère ne cèdent pas, sont individualistes, alors que là, au contraire, on a cette solidarité entre femmes.
Oui.
Qui montre aussi un autre visage de la pauvreté et de l'entraide, de la solidarité qui se tisse depuis des formes de dénuement extrême.
Donc malgré le caractère tellement sombre de cette page de Hugo, elle vous aide à penser ce qu'on appelle les arts, les techniques et les savoirs qu'on acquiert dans la pauvreté et le dénuement.
Tout à fait. Il me semble que ce texte, Hugo, en fait, était un des premiers à avoir parlé de philosophie sociale comme une pratique de la philosophie qui devait être en prise avec la question sociale. Et ici, il révèle, pas seulement la face sombre de la pauvreté, mais aussi tout ce qui peut s'apprendre pour de positivité, pour faire de la pauvreté une forme de vie où on a malgré tout, on conserve une dignité, même si cette dignité, elle est très éprouvée, même si elle n'est pas reconnue socialement. Et ce qui est très beau aussi dans le personnage de Fantine, c'est le fait que ce qui la tient, ce qui fait qu'elle continue à se battre contre la misère, c'est cet amour pour sa fille. Malgré le fait que, socialement, elle est considérée comme une mère ayant abandonné sa fille, puisqu'elle l'a confiée elle a confié Cosette au Thénardier, et malgré tout, en fait, ce que nous révèle Victor Hugo à travers sa peinture psychologique du personnage, c'est que c'est vraiment cet amour inconditionnel pour sa fille qui lui fait
la fait tenir
face à ces épreuves horribles.
Alors, dans les travaux sur donc ce que vous appelez les injustices épistémiques, dans le sillage d'autres travaux sur lesquels vous nous avez éclairé, Cécile Lavergne. Il y a aussi cette idée que vouloir de l'extérieur dire aux pauvres ce qu'ils doivent faire, c'est une aberration, notamment traîne depuis, je ne sais pas, des siècles, des idées souvent bienveillantes, voire militantes, qui consistent à établir, à dire aux gens dans le dénuement comment ils doivent utiliser leur budget. De manger ceci plutôt cela, de dépenser ainsi plutôt qu'autrement. Cette position de surplomb des sachants souvent généreux. Je crois qu'on peut pas remettre en question toujours les bonnes intentions. Et vous expliquez très bien, vous allez encore le faire pour nous, que là il y a quelque chose qui méconnaît ce que c'est d'être dans la misère ou dans le dénuement, pas forcément d'ailleurs toujours extrême. Alors ça a beaucoup intéressé George Orwell, qui s'appelait donc en vérité Eric Blair, et qui a beaucoup réfléchi à comment devenir autre chose que lui-même, c'est-à-dire pas un officier colonial, enfant de bourgeois, mais un pauvre. Il a vécu avec des clochards dans la dèche de Paris à Londres, qui paraîtra seulement en 1933, est un texte de la fin des années 20 qui rappelle ces errances où il a vraiment eu faim, il a vraiment connu la dèche, quoi. Et puis il y revient dans le quai de Wigan en 1937, où il évoque cette fois-ci, c'est un véritable reportage au sein d'un monde de chômeurs britanniques, pauvre, et il évoque précisément toutes ces âmes généreuses qui prétendent leur dire comment il faudrait dépenser leur argent pour vivre mieux. Eh bien, écoutez ce texte du quai de Wigan, 1937.
J'avais demandé à une famille de chômeurs de faire une liste donnant un état aussi précis que possible de leurs dépenses pour une semaine normale. L'allocation de chômage de cet homme se montait à 32 shillings par semaine. Et outre sa femme, il avait à charge deux enfants, l'un âgé de 2 ans et 5 mois, l'autre de 10 mois. La famille du mineur ne dépensait que 10 pence par semaine pour les légumes verts, 10 pence et demi pour le lait et rien pour les fruits. Mais il y avait 1 shilling 9 pence pour le sucre et 1 shilling pour le thé. La demi-couronne affectée à la viande pourrait éventuellement correspondre à un petit rôti et de quoi faire un ragoût, mais il y a de grandes chances pour que cela représente plutôt 4 ou 5 boîtes de bœuf en conserve. La base de cette alimentation était donc le pain blanc et la margarine, le cornet de bœuf, le thé sucré et les pommes de terre. Un désastre diététique. Ce couple n'aurait-il pas été mieux inspiré de consacrer davantage d'argent à l'achat d'aliments de santé, comme les oranges ou le pain complet, ou même, comme le dit l'auteur d'une lettre au magazine Le New Statesman, d'économiser sur le combustible et de manger les carottes crues? Oui, sans doute. Mais la question est qu'aucun être humain ordinaire ne fera jamais une chose pareille. L'être humain ordinaire se laisserait mourir de faim plutôt que de vivre de pain bi et de carottes crues. Et là où le bas blesse le plus, c'est que moins on a d'argent, moins on a tendance à en dépenser pour acheter des aliments de santé. Un millionnaire peut se payer le luxe d'absorber uniquement du jus d'orange et des biscuits Rivita à son petit déjeuner. Un chômeur, non. Quand vous êtes chômeur, c'est-à-dire mal nourri, ennuyé, assailli de tracas et de misères de toutes sortes, vous n'avez aucune envie de manger sainement. Ce qu'il vous faut, c'est quelque chose qui ait un peu de goût. Tiens, si on se payait un grand cornet de frites, ou une bonne glace.
Vous m'avez dit, Cécile Laverne, que ce texte de Orwell, que nous avons, vous avons donné avant l'émission, ce texte de George Orwell dans le Quai de Wigan en 1937, est extrêmement actuel. Je vous écoute. Pourquoi est-il actuel, toujours tellement pertinent, vous qui travaillez sur la pauvreté?
Alors, il me semble extrêmement actuel parce que il renvoie à un stéréotype encore très présent selon lequel les personnes pauvres se nourrissent très mal. Et en particulier, alors, sa forme contemporaine, ce serait de dire que les personnes en situation de pauvreté ne veulent pas manger bio, par exemple. Bon. Ce qui est un énoncé très paradoxal, parce qu'on sait que la nourriture bio est extrêmement chère, hein, et qu'elle ne correspond pas aux possibilités financières des personnes pauvres. Ce que je trouve intéressant dans ce texte, c'est qu'il met en scène ce que vous évoquiez précédemment, le paternalisme, en fait, consiste à juger en permanence les choix, en particulier alimentaires, de consommation des personnes pauvres, comme des mauvais choix. Et comme si, en fait, les personnes en situation de pauvreté n'avaient pas droit à avoir du plaisir, tout simplement. Et c'est d'autant plus intéressant que, dans un entretien à la revue Carmonde, Miranda Fricker, qu'on a sollicité pour réfléchir à la question de la pauvreté, parce que, en fait, son concept d'injustice épistémique, elle a avant tout forgé en lien avec une réflexion sur le racisme et le sexisme. Et quand elle réfléchit à la pauvreté, elle prend justement l'exemple des pratiques alimentaires. Et elle explique que les personnes en situation de pauvreté subissent une série d'injustices épistémiques en lien avec ces pratiques alimentaires.
À regarder le monde s'agiter et paraître en habit d'imposture et de supercherie, on peut être mendiant et orgueilleux de l'être, porter ses guenilles sans en être appauvri. L'humour n'a pas de rang, il traîne dans la rue avec la dérision pour compagne fidèle. La force est impuissante devant les mains nues de ceux qui savent rire encore et de plus belle. On voit sur le trottoir des maîtres philosophes qui n'ont jamais rien lu mais qui ont tout compris. On voit dans le ruisseau des filles qui vous offrent un instant qui ressemble à mille et une nuits. Il y a des enfants rois.
Merci beaucoup Cécile Laverne, Étienne Elmer. Nous nous quittons, en tout cas pour le sujet de cette émission, avec Georges Moustaki, Mendiants et Orgueilleux, sa chanson de 1972. Les références de vos travaux à tous deux sont précisées sur le site de notre émission. Voici maintenant la chronique du jeudi proposée par Nassim El-Kabli. Aujourd'hui, Nassim El-Kabli nous explique que la liberté d'être soi n'a pas de sexe avec Sartre et Beauvoir. C'est le fil-filo.
Le fil, philo.
L'idée que chacun et chacune est prisonnier de son genre est une idée qui revient aujourd'hui à la mode. Vous avez sans doute entendu parler sur les réseaux sociaux du mouvement tradwife et des mouvements masculinistes. Ces mouvements prônent un retour aux valeurs traditionnelles où les femmes seraient, par nature, destinées à s'occuper du foyer, des enfants et, faut-il le préciser, de leurs compagnons. Les hommes, eux, subviendraient seuls aux besoins économiques de la famille. L'homme décide, la femme exécute. Mais est-ce si naturel ? On ne naît pas femme, on le devient, nous dit Simone de Beauvoir, philosophe existentialiste. Ce qu'elle veut dire, c'est que les rôles sociaux que l'on attribue traditionnellement aux femmes ne sont pas naturels. C'est le regard social et non pas la nature qui construit l'identité de la femme. Et bien sûr, ce qui vaut pour les femmes vaut tout autant pour les hommes. La masculinité aussi repose sur des normes sociales. On ne naît pas homme, on le devient. Pourtant, de nombreuses personnes pensent que leur identité est innée. L'identité sexuée, être un homme ou être une femme, impliquerait d'avoir des qualités spécifiques qui seraient naturelles. Par exemple, la douceur pour les femmes, la force pour les hommes. Ton corps, mon choix, comme a pu le dire dans un message adressé aux femmes, l'influenceur américain masculiniste Nick Fuentes, détournant ainsi le mot d'ordre féministe, mon corps, mon choix. C'est dans cette même veine qu'est né le mouvement MGTOW, acronyme de l'expression « men going in their own way », littéralement « les hommes suivant leur propre chemin ». Suivre son propre chemin. Comme vous allez le voir, ce slogan a priori sympathique n'est pas dénué de contradictions. Si votre sexe ou votre genre détermine les supposées qualités que vous êtes censé posséder, la force, l'intelligence par exemple, alors en toute logique, vous n'êtes que le produit d'une conception stéréotypée de votre genre. Par conséquent, le masculinisme ne peut être qu'un conformisme. Il n'y a qu'une seule manière d'être un homme, un vrai. Non seulement l'homme masculiniste refuse la liberté aux femmes, mais il se la refuse à lui-même puisqu'il est tenu de répondre à des normes qu'il prétend naturelles. Loin d'être un chemin personnel, on a donc plutôt affaire ici à une autoroute ennuyeuse et sans surprise où l'on va d'un point A à un point B ou plutôt d'un point A à un point alpha. Notre genre serait une prison de laquelle nous ne pourrions pas sortir. À l'opposé de cette conception figée de l'identité, l'existentialisme oppose une conception de l'identité fondée sur la liberté du sujet. Comme l'écrit Jean-Paul Sartre, philosophe existentialiste très proche de Simone de Beauvoir, l'être humain est condamné à être libre. Cette formule paradoxale et très puissante signifie que notre identité ne nous est pas donnée, elle se conquiert par nos engagements et par nos choix de vie. Les études que vous poursuivez, le métier que vous exercez, votre engagement politique ou associatif, vos amours et vos amitiés, tout cela façonne votre identité. Vous êtes ce que vous faites, là est votre responsabilité. Sartre nous dit que l'être humain est condamné à être libre et condamné à chaque instant à inventer l'homme. Refuser cette liberté, c'est renoncer à devenir soi-même. À vous de choisir.
Merci Nassim El Kabli. Nos émissions peuvent être réécoutées ainsi que cette chronique et dans la semaine celle de Frédéric Worms. Elles peuvent être tout cela peut être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Noé Chaban. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Felpin, Nassim El Kabli, Corinne Amar et Victoire Mellet. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.